Get out, Canada. This is the doctor.
Yo, this is Slim Kid.
This is Fat Lip.
This is Imani.
This is the Far Side.
That's who we are. Yo, check it out. We're just chilling. You know what I'm saying? Yo, Imani, what station are we on? CKUT
90.3
FM. Cooler.
Something about this outrageous man became louder and louder.
He's dead. Bonjour à tous, vous écoutez Le Lendemain de la Veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Bon lundi matin, mon nom est Nelson, je suis accompagné du seul et unique Marc-André Jutras. Comment vas-tu ce matin?
Yeah, yeah! Je vais super bien après écouter Rasputin, comment ne pas être sur le party.
Rasputin! Écoute, là, c'était un véritable dance floor dans le studio.
La boule de disco est en haut de
la boule de disco bougeait d'elle-même. Ouais. C'est ni plus ni moins magique. Ouais. Et Boney M., grand succès qui nous vient de l'Allemagne.
Exact.
En 1978. Pourquoi on a choisi ça ce matin, Marc-André?
Ben, deux raisons. Dans une place de vinyle, il y avait un dude qui vendait presque exclusivement du disco de cette époque-là. Et moi, je cherche des albums de boules noires que je n'ai pas. Je suis un complétiste, tu sais, cette maladie-là. Un complotiste, oui.
Ah ouais?
Ouais, je complète les disques qui me manquent d'un certain artiste.
OK.
Surtout la bonne période de boules noires. Ouais. Fait que là, lui, il avait cet album-là. Et là, j'ai entendu ça à ma fête il y a une couple d'années et ça m'avait ramené dans des flashbacks. Moi, j'ai commencé à faire de la radio. Ça paraît pas que j'ai de l'expérience quand je m'en fâche dans mes mots, là, surtout le matin. Mais au cégep Bois de Boulogne, je faisais de la radio avec une Brigitte que je salue. Et le thème de notre émission s'appelait « Poutine Party ».
Poutine Party.
Nous autres, on était précurseurs. On savait que la poutine allait devenir big dans les années... 2000.
Parce que c'était pas big à l'époque.
2020. Non, c'était encore underground.
Mais c'est vrai que,
C'était le lendemain de la brosse, le lendemain de la veille.
Mais la poutine à l'extérieur du Québec, ça n'existait pas vraiment, je pense.
Non, non.
Mais là, maintenant, c'est devenu international.
Ben, ouais, à New York, par exemple, ça l'était déjà à cause d'un Québécois. Ouais, il y avait un Québécois qui avait introduit ça. Puis, moi, je l'ai introduit au Chili, d'ailleurs, mais ça, on en reviendra.
C'est toi le premier à avoir fait ça.
Parce qu'on va ouvrir un autre parenthèse.
Okay. On revient à
Boney M.
Bois de Boulogne.
Bois de Boulogne. L'émission s'appelait Poutine Party et ma collègue avait un 45 tours, un petit disque de Rasputin. Une version peut-être plus courte.
Radio, peut-être?
Radio, remix, Boney M. Et je me rappelais de la toune, je me rappelais pas de l'artiste. Puis à un moment donné, 1 plus 1 égale 2. À cette heure, on a Shazam, on a 2
plus 2 égale 4.
Oui, exact. Et là, moi, j'ai Boney M. L'album s'appelle Night Flight to Venus. C'est un OG, pressing canadien, 1978, comme tu l'as si bien dit. Et là, il faut que je décrive la fameuse pochette. T'as Boney M., qui tient une corde laser, il est suspendu et il y a ses trois acolytes, ses trois femmes qui ont un look disco. Il y en a une qu'on dirait qu'elle a un casque de bain avec du bling-bling dessus et ils tiennent la corde et sont dans l'univers. Et à l'endo, on comprend plus le concept. C'est une corde, comme si tu es en hélicoptère là, et tu te fais sauver dans une situation périlleuse. Et là, les quatre sont là. Boney M qui a un costume rouge. Je pense que Michael Jackson l'a copié, mais avec des longues manches. Et les trois princesses à côté de lui. Et là, ils vont grimper dans cette corde d'échelle pour monter in Venus.
OK. Simplement. Très space.
Très space. Fait que c'est ça, c'est du disco. Je commence à assumer mon...
Ah ouais?
Mon côté obscur du disco.
Le côté obscur du disco, OK.
J'aime Donna Summer à cause de Moroder. Et là, ben, je vais à côté. Là, j'essaie de trouver de quoi. Ben, Saturday Night Fever, ça, c'est la...
Ouais.
C'est, mes parents écoutaient ça, fait que ça... J'ai vu le film. Après ça, Grease Lightning, Travolta, tout. Fait que, tu sais, tout ce côté cheesy-là que je reniais, mais que, quand je l'entends, ça vient chercher des flashbacks d'enfance.
Ouais.
Mais Rasputin, ça, mes parents, jamais, ils auraient écouté ça. Mais nous, à l'émission Poutine Party, c'était la... Le thème de l'émission, la première pièce.
Okay.
Après ça, on jouait du Mimum, du Grimmskong, du Suicidal, du Ice-T. Après ça, c'était la seule affaire qu'on pouvait dire que c'était du cheese, mais on l'assumait. Là. Du cheese en poutine, ça prend ça.
Ouais.
Ça prend de la sauce à gravy, ça prend des patates.
OK.
Puis ça vient de Victo. Là, commence-moi pas là-dessus un matin. Dis-moi pas Drummond, dis-moi pas Warwick.
Je pensais que ça venait d'Allemagne, Victo.
Non.
Ah ouais?
La poutine.
Rasputin.
Ouais, Rasputin.
Mais là, il faut comprendre que Rasputin, c'est pas de la poutine.
Ben non, c'est un dictateur russe.
Non, c'est un...
C'est un tsar.
Non, c'était pas un tsar. C'était un genre de sorcier consultant, un proche de la reine Catherine, je pense qu'elle s'appelait.
Oui.
Mais c'était pas le roi, là.
Tout ce qu'on a l'histoire. Ouais,
lui, c'était un genre de sorcier qui était comme un peu... il était proche de la famille royale.
Puis il n'était pas tuable, il n'était pas crevable. Mais
il semblerait qu'il y avait aussi un gros membre.
Ah oui, il était bien membré.
Il y a des gens en Russie, je ne sais pas où. J'ai vu passer un reportage une fois, quelqu'un qui réclamait avoir en sa possession le membre
original
de Rasputin qui aurait été conservé dans un pot dans le formol.
Il est dans un sac de plastique comme mon Venice, tu as un OG.
Non, parce qu'il est trop gros pour être dans un.
Il est dans un bol de formol.
Exactement.
Hey, on va perdre notre émission, là, Nelson. Faut pas s'en aller dans les côtés obscurs. Mais Rasputin, il avait une grosse barbe, il avait des cheveux longs gras.
Ouais.
Il faisait peur, là. Je pense que c'est le premier croque-mitaine.
Croque-mitaine.
Ouais, premier freak, premier monstre.
C'était comme un genre de je sais pas comment dire, là, une espèce de charlatan qui était manipulateur, charmeur en même temps, puis que c'est ça. Là, il avait
monté dans la caste.
Les pouvoirs. Il a réussi à se rapprocher de l'élite russe à l'époque. Là.
OK.
Ouais.
Fait que le truc, c'est d'avoir les cheveux longs, gras, puis une barbe.
D'être extrêmement convaincant aussi.
Ouais, ouais.
C'est un genre de gourou, en fait.
Oui, exactement.
Ouais.
On aime ça, nous autres, les gourous.
Oui, oui.
Ouais. T'en es un, toi.
Oui.
Ouais. Hey, on a une bonne émission en parlant de gourou. Okay. On a de la bande dessinée.
J'en bois des fois de la gourou.
Tu as de la gourou, ça te met sur le piton à la place à prendre un café. Bon déjeuner, tout le monde. Si vous êtes en voiture, faites attention. C'est une émission en feu. On a de la bande dessinée. Low Reader, vous allez savoir c'est quoi. Des classiques du cinéma. Et en parlant de cinéma, je suis très excité. Joaquin Phoenix, le seul, l'unique, celui qui a interprété le Joker il y a quelques années, joue dans un film qui s'appelle Beau is Afraid. Et ça, tu vas me dire, mais qui est Beau? Ben, c'est le nouveau film de Ari Aster.
Ari Aster.
Oui.
Aster.
Aster Piazzolla.
De quoi qu'il a fait?
Aster, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, Aster, qu'est-ce qu'il a fait? C'est beau, mais il avait fait Hereditary, qui est très dur à dire le matin quand j'ai pas pris de gourou, et Midsommar.
Oui.
Que je te conseille de voir.
Ben oui.
Les deux.
J'ai vu Hereditary.
Oui.
Très bon film d'horreur.
Assez. La nouvelle horreur. Moi, j'appelle ça de la nouvelle horreur.
Ouais, c'est la nouvelle vague. Des années 2010, peut-être. Ouais. Ça fait un petit 10 ans, peut-être, ce film-là. J'ai aucune idée, c'est Canada.
C'est dérangeant.
Mais ça, c'est tous des films de la maison de production.
Blue Mouse?
Non, c'est okay. A24.
Ah, OK.
Puis depuis ce temps-là.
Ben
depuis...
oui, t'as bien raison, j'ai flyer name. Ouais.
Depuis ces films-là d'horreur, parce qu'ils font pas juste des films d'horreur, là, en fait, mais ils ont comme vraiment gagné en popularité. Puis, tu sais.
En crédibilité,
en crédibilité, exactement, pour la qualité de leurs films. Puis j'ai vu passer là, une parenthèse là, sur A24.
Ouais.
Pas plus tard qu'hier soir, j'écoutais Netflix tranquillement. Un petit Netflix and chill. Puis une nouvelle télésérie qui s'appelle Beef, qui est produite par A24.
OK. Ouais,
puis je crois que c'est peut-être leur première production Netflix.
OK.
Ça se peut, je me trompe, mais c'est la première fois que je voyais ça sur Netflix. Comme
c'est bon, c'est-tu
contenu original.
C'est-tu les gens qui se battent en auto? Ben, je veux dire qu'il y a comme un beef d'auto. Là,
une espèce de rage au volant qui dégénère, mais qui. En tout cas, c'est un peu dur à expliquer. Là.
Fucky, ouais.
Mais A24, donc ça doit être un peu bon.
Oui.
Et surtout que c'est le même réalisateur qui a fait Midsommar et
c'est Ari Aster qui fait la série?
Non.
Ah, okay.
On parle de ton film de ce matin.
Oui.
Qui s'appelle Beau is Afraid.
From his darkest fear comes the greatest adventure. Petite parenthèse, petite anecdote, petite tranche de vie. Mettez-vous deux tranches de pain dans le toaster, mais mettez-la pas trop forte parce que ça va brûler. Ça a été tourné à Montréal.
OK.
Et la forêt qu'il y a dedans. J'ai pas vu le film encore, mais j'ai des amis qui ont travaillé sur la production.
C'est le Mont-Royal?
Non, ils ont fait ça au Cap Saint-Jacques.
Au Cap Saint-Jacques, à Pierrefonds, dans l'ouest de l'île.
À Sainte-Geneviève.
West Island.
West Island represent 514-450 is not in the house. Just 514 this morning. 514.
Moi, j'ai un 438, par contre.
438. Tout est la nouvelle génération, on n'en parle pas. Mais regarde, la photo est vraiment cool. Moi, je vais aller le voir en cinéma. Là, il est déjà depuis le 21 avril. Fait on va entendre l'émission. Les fêtes vont arriver, là, parce qu'il y a du décalage horaire. Mais tu as un jeune Joaquin Phoenix, mais qui est joué par un autre acteur. Tu as un jeune homme. Tu en as un qui est plus dans la mid-50, tu sais, la cinquantaine avancée. Et tu as là le grandpa. Les trois plus vieux sont joués par Joaquin Phoenix. Je suis très excité de le voir. Je veux le voir en cinéma. J'étais allé voir Scream parce qu'il avait été tourné à Montréal. Puis j'ai un props en maison qui vient de Scream. Fait que là, j'ai quelque chose aussi de Boys Afraid. Je veux le voir dans le film avant de vous en parler. Mais je suis vraiment excité parce que ce réalisateur-là, comme Jordan Peele, c'est la nouvelle vague, comme on dit, de cinéma d'horreur. Ouais. Et c'est pas de l'horreur slash, c'est pas de l'horreur prévisible. C'est de l'anticipation, c'est de l'horreur psychologique, atmosphérique. Je sais pas comment décrire ça. Vas-y.
Psychologique, oui, c'est ça. Nouvel type de... Ben, c'est pas une nouvelle façon de voir l'horreur, mais c'est que c'est une nouvelle... comment je dirais? C'est qu'on n'a plus besoin de montrer des monstres, des créatures, des messieurs avec des masques puis des couteaux.
Oui,
c'est comme l'horreur vient des gens, vient de l'ambiance. Un peu comme la semaine passée, on parlait de Roman Polanski, qui lui aussi flirtait avec ce type d'horreur-là, qui est plus de l'angoisse, tu sais, comment bien dépeindre au cinéma l'angoisse, l'anxiété, le stress.
C'est plus du cinéma d'auteur. Ça se rapproche du cinéma d'auteur. Puis je pense que c'est qu'est-ce qu'on aime plus. Oui, on a écouté des slashers, puis des Jason, puis des Mike Myers et compagnie, Freddy Krueger, mais maintenant, on en fait le tour. Puis je pense qu'on se fatigue qu'ils sont presque immortels, sont revampés par un nouveau réalisateur, par un nouvel acteur. Moi, quand j'ai vu le revamp de Elm Street, c'est Robert Englund qui doit être Freddy Krueger. Même s'il a 60 ans aujourd'hui, s'il met un masque, c'est encore lui. Peut-être que ça ne tente pas, mais... Hey, en passant, c'était pas prévu. Là. On s'en va en terrain inconnu. Il y a un retour de l'Opéra de la Terreur. Opéra de la Terreur, ça, c'est en français. C'était super écran, super étoile. Là, on recule, c'était la télé payante. Ça, là, l'Opéra de la Terreur, ça m'avait terrorisé. Ça le dit, d'opéra. Il n'y a pas d'opéra dedans, inquiétez-vous pas. Ce n'est pas ça qui était parent. C'est la terreur. C'est Sam Raimi. Sam Raimi, Bruce Campbell.
Light of the Living Dead? Non, non c'est pas ça, pantoute.
C'est quoi, en anglais?
Mon Dieu Seigneur. La Chainsaw.
Army of Darkness.
OK.
Mais Army of Darkness.
L'Armée des Ténèbres.
L'Armée des Ténèbres, mais là, les deux autres, c'est pas From. Je pense à From Dusk Till Dawn, là, je vais me faire.
Non, mais non.
Mais en tout cas, vous savez c'est quoi Sam Raimi? Ben là, je sais pas si c'est un revamp. Ça n'a pas l'air de Sam Raimi qui le réalise, il le produit peut-être. C'est basé sur ses personnages. C'est le retour de. L'Opéra de la Terreur. On va voir le
mais le film, c'est l'Opéra de la Terreur?
Ouais, ben c'est... Non, c'est... J'ai juste le titre en français, ce qui est très bizarre. C'est Dawn of the Dead. Non, c'est pas ça. Hey, venez nous aider, les amis. Envoyez-nous des dons télépathiques. Mais c'est ça, ça sortit. Je pensais jamais que ça allait revenir parce qu'il avait fait la télésérie, la série, sur 3 saisons. Et la dernière saison, il y avait l'ouverture ou la fermeture pour une 4e. Et le comédien qui fait Bruce Campbell, qui fait le personnage principal dans le film, était tanné. Il a arrêté il a dit non, je continue pas. Là. Il a tout le temps été trop associé à ce personnage-là de il semble pas Dawn of the Dead. Evil Dead. Avant que tu pintes sur ton téléphone à poche.
Fallait que j'aille chercher ça.
Fallait que j'aille peur. Tu m'as fait peur, tu as sorti ton cellulaire, puis là, j'ai dit, OK, là, je vais flancher. Tout ça pour dire que là, il y a un nouveau film. Pendant la pause, on va regarder c'est quoi. Là, j'ai un roman entre les mains, un roman québécois que j'ai dévoré, qui est excellent, qui s'appelle droit vers le soleil. Je te dis droit vers le soleil, quel personnage mythique fonce vers le soleil?
Icar.
Un morceau de robot pour Nelson ce matin. Yes. Il est réveillé. Je donne un verre de jus d'orange avec un petit peu de Smirnoff dedans.
Oh yeah!
Et là,
Screwdriver.
Ce roman raconte une année dans la vie d'une femme qui refuse de renoncer à quelque part de bonheur que ce soit. Au nom de quoi? De qui le ferait-elle? Elle s'élance donc droit vers le soleil. Oui, comme Icar, se dit-elle, quitte à se brûler les ailes.
Mm-hmm.
C'est écrit par Brigitte Vaillancourt qui a écrit de la poésie, qui a écrit ce qu'on appelle des romans jeunesse pour la jeunesse, la littérature jeunesse.
Okay.
Et elle se lance avec ce premier roman-là. Non, c'est le deuxième, pardon, parce qu'il y avait les marées auparavant. Et là, ça, c'est son deuxième, droit vers le soleil. Et là, l'autrice affranchit le territoire pour adultes avec ce livre-là. Elle écrit à la première personne, fait qu'on se demande presque si c'est autobiographique ou semi-biographique ou avec toutes les étiquettes.
Autofiction.
Autofiction, merci. Puis il porte la parole libérée d'une femme, d'une conjointe, du même homme depuis plusieurs années et qui est mère de deux garçons. Mais au fil du temps, avec le temps, l'amour, je vais dire l'humour, mais l'amour s'effrite un peu. Et là, la narratrice, là, on ne sait pas si c'est Brigitte Vaillancourt ou la narratrice, on ne sait pas vraiment c'est qui, elle ressent le besoin viscéral de vivre d'autres expériences charnelles, puis finalement, elle ira jusqu'à redéfinir les structures traditionnelles du couple et ses codes sociaux,
mm-hmm.
quitte à se mettre à dos son conjoint, son complice, son ami, avec qui elle a partagé beaucoup d'aventures, parce qu'on a des petits flashbacks de comment ils se sont connus, puis pourquoi qu'il est avec lui et tout ça. Moi, je trouve ça super. Là, faut pas... La pochette, c'est une femme qui est nue, qui tombe dans l'eau. Ça a l'air d'une peinture avec un éclairage, avec des bobos. Super belle pochette. Super d'eau, belle couverture. Le roman est paru chez Boréal. Et on pourrait penser que c'est un petit livre coquin, mais c'est pas juste ça. Il y a quelques petits aspects charnels. L'amour, rencontre un autre homme, tout ça. Mais c'est tout redéfinir le rôle de la femme dans la société, autant en couple que célibataire, que mariée, non mariée, mère, autrice, créatrice, artiste et tout ça. Fait que c'est super intéressant. Puis vu qu'elle parle au jeu, on se sent interpellé.
Oui.
C'est comme si on lit le roman intime de quelqu'un. On sent un petit côté voyeur. Fait que je vous le recommande, Brigitte Vaillancourt, Droit vers le soleil. Ça se lit très bien, c'est peut-être 150-200 pages.
Est-ce que
Pas de colle.
La personnage principale est aussi autrice dans l'histoire, dans le roman?
Elle définit pas trop son travail, mais okay. elle est travailleur comme autonome, mais ça pourrait être l'autrice. Elle peut être autrice, mais c'est pas ça, on en parle pas beaucoup.
OK.
Elle parle à peine de ses enfants, elle en a. C'est plus le couple. Puis la rencontre d'un autre homme, puis qu'est-ce qui est le bonheur pour elle. Fait que je vous le conseille.
Exploration dans les relations homme-femme.
Ouais, puis la fameuse image de la famille nucléaire là, parfaite, là, le père, la mère, les deux enfants, le chat, le chien, l'auto, le chalet, whatever. Tu sais, l'espèce de rêve américain, ben Elle, il y a comme un clash. Puis, tu sais, elle a à peu près peut-être aussi à l'approche de la quarantaine.
Oui, c'est ça, j'allais dire.
Une crise de remise en question. Qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie? Qu'est-ce que je veux dans ma vie pour les 40 prochaines autres années? Fait que c'est venu me chercher. J'ai trouvé ça fort agréable. Elle a une très belle plume. Ça se lit bien. Je vous le recommande.
Excellent. Brigitte Vaillancourt avec Droit vers le soleil.
En parlant de soleil, on était sur Vénus avec Bonnie M. Là, on va aller au soleil en Amérique latine.
nous écouter le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. On vient d'écouter une belle pièce musicale qui nous a fait voyager. Marc-André, dis-moi, qui était cet artiste, ces artistes qui nous font voyager?
J'étais loin du micro, hein, mais tu stressais un peu parce que tu n'avais pas vu ce que j'avais entre les mains. Le groupe s'appelle Bloqué. L'album s'appelle Des Busqueda. Et c'était la pièce 4, c'était Mahana. Et c'est paru sur Luaka Pop Warner Bros. Ça date quand même de quelques années, 1998. Et ils étaient venus au festival de jazz de MTL, Montreal Represent.
Donc le groupe s'appelle Bloqué.
Bloqué, Bloc ou Bloc. Ben ouais.
Bloqué de Busqueda.
Ouais.
OK. Tu as reconnu pour être quoi?
Je suis loin du micro, Bloqué. J'allais chercher la feuille du festival de jazz, c'est Bloqué. Le groupe, c'est Bloqué. Okay. Je pense que l'album, c'est Des Busqueda.
Ah, je vois.
Et moi, je ne me trompe pas, je les avais vus en show. Je sais que je les avais entendus à la radio, des radios alternatives, tout ça, comme CKUT ou CIBL, peu importe. Et j'avais vraiment accroché au son. Puis là, j'ai dit, je vais aller voir que ça a l'air, l'album. Puis je pense que je l'avais downloadé, mais là, j'ai l'original entre les mains et je te le prête.
En CD.
En CD. Là, ça n'existait pas, le vinyle de cet album-là. Fait que du 29 juin au 8 juillet, comme à chaque année, c'est le Festival international de jazz à Montréal. Ils n'ont pas besoin de publicité.
Non.
On va faire du name-dropping.
On n'en parlera pas.
Non, mais c'est la 43e édition, Nelson.
Ben, qui toi?
Puis toi, ton cousin, moi, puis Rafi, on s'en va voir le seul, l'unique, pas Marc-André Justra, Herbie Hancock.
Herbie Hancock qui vient à Montréal cet été.
Oui, on va triper
à la place des arts. On va être habillé propre.
Puis ouais, on va dress to impress.
On va se laver les cheveux.
Oui, je vais me faire la barbe. Toi aussi, toi, je veux que tu te rases un peu.
OK, oui. Pour Herbie.
Le look Fidel Castro, c'est fini.
N'importe quoi.
La révolution. Il va y avoir Diana Krall, Robert Plant et Alison Krauss. Il va y avoir Thundercat, je pense que c'est gratuit.
Oui.
À l'extérieur, il va avoir... Vous autres, vous me parlez tout le temps de Snarky Puppy. Je connais pas. Moi, je connais Skinny Puppy, mais Snarky Puppy, je les connais pas.
Oui, c'est un peu dans le jazz fusion, mais tu sais, avec beaucoup de musiciens, donc ça rentre dedans.
Ça va torcher.
Moi, je le recommande, Snarky Puppy. Ouais.
Il va avoir Buddy Guy. Il va en avoir plein. Il va avoir Christine and the Queen. Mais un autre show gratuit, Marisa Monte du Brésil, que j'adore, c'est smooth, c'est une voix sensuelle. DJ Premier and the Batter Band. Et je crois que c'est gratuit. DJ Premier, si vous ne savez pas c'est qui, c'est l'acolyte de Guru. C'est eux qui avaient formé le groupe Gangstar dans les années 90.
Okay.
Moi, je savais pas c'était qui Gangstar. Je sais qu'il faut qu'on y aille en pause, mais il faut que je raconte cette anecdote-là. J'étais au Chili, justement. On parlait du Chili entre les pauses. Et Gangstar, pour moi, il y avait un autre groupe qui s'appelait comme Gangstar ou une affaire de gang. C'était juste des anciens membres de gang qui faisaient du rap. Puis c'était comme du proto-rap. Là. C'était un beat pas super solide, puis du monde qui rhyme. C'était bien ordinaire. Mais là, c'était pas la même affaire. Là. Eux, c'était Gangstar. Puis ils sont pas un collectif, ils étaient deux. T'avais Guru sa voix, puis t'avais un des top, sinon un des meilleurs DJ Premier, qui était son acolyte. C'était un duo. Puis ils ont fait des albums solides. Puis c'est au Chili que j'ai entendu ça, parce que Sekis Nelson, qui avait une boutique de hip-hop, était DJ le soir à temps perdu et il mettait tout le temps des albums de Gangstar. Et c'est là que j'ai découvert ça. Puis j'ai dit, c'est tellement bon. Puis ces gars-là samplaient, échantillonnaient du jazz, du blues, du R&B, du funk, quand ils avaient encore le droit. Puis ils ont fait des pièces solides.
Okay, ouais.
Fait que ce gars-là va être à Montréal, ce DJ-là. Fait que je pense que ça va être magique avec tous les autres artistes aussi qui vont être présents. Il y a Alain Caron du Québec. Il y en a plein.
Alain Caron. Écoutez, sincèrement, le line-up du festival de cette année, il est assez impressionnant.
Oui.
Coco Rocco, Hermanos Gutiérrez, qu'on a déjà fait jouer ici.
Oui. Primeur, avant tout le monde, hein? Ça joue à Radio-Canada à cette heure, à des émissions comme ici, mais on était les premiers, comme on était les premiers à mettre le sound system, le ska sound system avec Freaks. Fait que nous autres, on est des précurseurs. On est en avance sur notre temps. On va dans le passé, on va dans le futur, on est dans le présent. Restez en onde, on s'en va en pause.
Oui.
Et on vous revient après la pause sur CKUT 90.3 FM.
Vous êtes de retour au lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Avant la pause, Marc-André, on avait une belle discussion sur le
jazz,
sur la programmation du festival de jazz de cet été. On est en avance, mais il faut quand même le souligner, quand il y a du bon stock, il y a du bon stock. Il y a quand même un gros line-up. Avant la pause, on parlait de Herbie Hancock, on parlait de DJ Premier et j'oublie c'est quoi son acolyte.
C'est In the Batter Band. Parce que Guru est décédé, malheureusement.
Mais il y avait d'autres grands noms, dont George Benson, le grand George Benson, guitariste virtuose du smooth jazz.
Ouh là là.
Qui d'autre? Ben, il y avait aussi The Budos Band, que je recommande aussi, très
c'est
bon.
Des jammers. Il y a Teke Teke, qu'on a déjà vu gratuitement, qui peut-être sont payants cette année, mais ça vaut la peine de payer pour ce groupe-là. Il y en a énormément.
The Bad Plus, un bon trio jazz qui s'était fait connaître pour des reprises de musique pop, mais ils ont lâché la musique, les chansons pop pour faire leur propre composition, vraiment intéressante.
John Scofield.
Oui, le grand John Scofield.
Le guitariste. Et là, moi, il y a une affaire que ça va nous coûter cher. Là. On va falloir, toi, faut-tu vendre un de tes enfants. Moi, je vais vendre un de mes reins, puis je vais réhypothéquer pour 50 ans la maison. Le groupe, ben il y a plein de shows. Moi, il y a un groupe que je veux. Il y a Steve Hill, un autre Québécois, Blues Rock. Il y a Manège. Manège, je pense que j'en ai déjà parlé. Moi, j'ai deux obsessions. J'en ai plein. Là, je suis dans une phase ska. J'ai eu cet hiver une phase de prog, de musique progressive, et j'ai délaissé un peu le prog, on va dire, British, avec les Yes, Gentle Giant, Emerson, Lake & Palmer. Et il y avait une grosse scène au Québec dans les années 70. Il y avait Morse Code. Et il y avait un groupe qui s'appelait Manège, qui sont instrumentales. Mm-hmm. Et là, ils vont faire un spectacle. Et ça, c'est un groupe instrumental. C'est du progressif, mais généralement, il n'y a pas de voix. En tout cas, pas ses albums.
Ouais, ouais.
Ils vont être au festival de
jazz. C'est quand même cool, ça.
Je pense que c'est un one-shot deal. Je pense pas qu'ils vont se produire souvent ou à chaque année. Là. Moi, j'hésite. Là. Je pense là, sérieusement à me procurer des billets pour ça. Fait que ça commence à coûter cher, mais ça va être vraiment intéressant, la programmation. Là. Je suis vraiment excité. On le dit d'avance parce que quand l'émission va jouer, le festival de jazz va avoir déjà joué. Fait qu'on,
c'est pas vrai.
C'est des blagues.
Chucho Valdez, un Cubain, si je ne me trompe pas.
La percussion, ça?
Non, c'est un chant. Je pense que oui. Bref, écoutez, le line-up du festival de jazz, sincèrement, là, c'est juste des valeurs sûres.
Ouais.
Peu importe, même pour les shows gratuits, là, j'ai l'impression que pointez-vous n'importe quel soir, là, ça va être toujours bon.
Ouais.
Sincèrement, bravo aux gens qui organisent le festival parce que il y a beaucoup de grands bons groupes de la haute qualité.
J'aurais pas pu faire mieux.
Non, vraiment, toi puis moi ensemble, on n'aurait pas pu faire mieux.
Non, il y aurait eu peut-être un band hardcore ou non, parce que tu sais, c'est le festival de jazz, mais les affaires, c'est presque pas jazz. Là. Je n'aimerais pas de nom, mais les affaires, c'est...
Non, mais ça a toujours été de même. Ouais, c'est ils veulent attirer. On peut pas juste être dans le jazz fusion instrumental, là, obscur. Il faut aller dans le grand public, dans la musique du monde,
l'influence
jazz.
Ça, oui.
C'est tous très, très bon.
Ouais.
On continue, chapeau. Marc-André?
Hey, en parlant de musique, on est des obsédés de musique. Je l'ai écouté là, ça fait un petit moment, là, j'hésitais, mais regarde. Empire Records. C'est la spéciale fan édition. Vous allez me dire, c'est quoi ça? Tiens, je te le passe entre les mains. C'est en anglais, tu vas me traduire ça en simultané.
Tu veux que je te traduise le DVD de Empire Records?
Ouais, au complet.
Donc, c'est une édition Remix Special Fan Edition. Donc, c'est sûrement une édition avec des bonus features,
ouais,
avec des suppléments. Alors, c'est un Special Fan Edition avec 16 minutes de plus de cool footage added. Jamais vu au théâtre, jamais vu au cinéma. Avec une bande sonore, la bande sonore, c'est la même qu'à l'époque, avec Gin Blossoms, The Cranberries, Toad the Wet Sprocket, Cracker,
yeah.
Evan Dando, Better Than Ezra. Je ne connais pas les derniers artistes que j'ai nommés.
Ouais.
Ah oui, OK. Ouais. Et c'est toujours la même cast, le même...
Même ça, non, les mêmes acteurs. Il y a des solides, là.
Donc, les acteurs principaux, Liv Tyler, Renée Zellweger, Anthony LaPaglia, Maxwell Caulfield, Debbie Mazar, Rory Cochrane, et plus.
Hey, c'est bon.
Donc, un DVD à vous procurer dans un
blockbuster,
un sous-sol d'église près de chez vous.
Un blockbuster ou un sol d'église près de chez vous. Hey, tout ça pour dire que ce film-là, je l'avais vu il y a longtemps, je l'ai revu, tout ce qui a rapport avec les 10, je capote. Et en gros, c'est un magasin pop, Mom and Pop Shop. Même si on a Empire Records, c'est que les grosses compagnies là, vont probablement les fermer. Mais c'est tous des jeunes avec des problèmes de santé. C'est la comédie qu'on pense de l'été, mais c'était un peu différent parce qu'ils ont des problèmes assez graves là, de jeunes adultes, là, anorexie, passé suicidaire, consommation d'alcool et de drogue, fornication à gauche, à droite, c'est tout ça. Fait que c'est bon, ça se passe justement, c'est des clercs dans des magasiniers dans un magasin de disques. Mais pourquoi que je vous en parle, c'est que je me rappelais pas, un des jeunes justement s'intoxique et a un flashback où il regarde la TV, il voit des images que probablement les autres ne voient pas. Et le réalisateur a eu la bonne idée à l'époque de mettre le groupe Gwar.
OK.
Gwar sont là et sont allés. Le film, la production du film sont allés les filmer en spectacle et ils ont demandé si leur comédien pouvait monter sur stage et il pouvait se faire Gwar, c'est du théâtre guignolesque avec beaucoup d'hémoglobine, pardon. Et c'est ça. Et juste cette scène-là, c'est une scène d'anthologie. Gwar était underground à ce moment-là. Ils le sont encore, mais un peu moins. Ils ont passé à MTV, Musique Plus, Much Music. Mais des voir dans un film que tu t'attends pas, c'est merveilleux.
Okay.
Et grâce à cette copie-là, je peux la regarder over and over, my
Donc,
dead body.
Donc, t'as acheté le DVD?
Ouais.
D'Empire Records. J'ai jamais vu ce film-là, peux-tu croire ça?
Je te le passe, tiens.
Je sais exactement c'est quoi, je l'ai souvent vu. Tout le monde m'en a déjà parlé, mais j'ai jamais vu.
Mais tu vas le voir.
Ouais.
C'est ton devoir, ça.
Un classique de 1995.
Ouais.
Sur l'époque des disquaires.
Ouais, ben comme High Fidelity.
Avant Internet.
High Fidelity aussi.
Ouais, High Fidelity, ça, je pense je l'ai vu. C'était avec John Cusack.
Exact.
Puis,
Petite comédie romantique, mais qui se passe avec un record store.
Ouais.
Parce que c'était le record store il n'y a pas si longtemps, hein, comme à chaque année.
Le record store day, tu veux dire?
Oui, exactement.
Ouais.
Ouais. J'ai juste ça.
On n'a rien d'autre à dire
on là-dessus. On n'a rien d'autre à dire.
OK.
À lâcher des vinyles. Moi, c'était à l'année. Toi aussi, c'était l'année.
Non, c'est ça.
Puis on va dans tu sais, il y a eu aussi... Au Québec, on est chanceux. On a aussi... on a eu la foire au vinyle sur le plateau, le record show du plateau qui a eu lieu là, au mois d'avril. Il va y en avoir un autre. Il y en a chaque année. Puis la caravane, 10 caravanes aussi qu'on aime aller.
Le vinyle caravane, oui.
Le vinyle caravane, merci. Parce qu'il y a un peu moins de monde. T'es un peu moins tassé.
Ouais.
Tu peux browser. Tu peux faire du crate digging tranquillos.
C'est vrai.
Si tu attends un petit café.
Avec une bonne bière. Ouais,
exactement.
Ben ouais. Exactement.
Là, je fais... Là, si vous nous suivez depuis le début, quand j'ai des obsessions, je vais à fond. Je suis complétiste. J'avais commencé tome 1, tome 2. On est rendu, troisième partie, tome 3. C'est Vicente Segreles, le mercenaire. la fin. Là, j'ai...
Une bande dessinée.
Une bande dessinée. Ben oui, c'est fou. C'est vrai, le monde ne peut pas lire dans mes pensées. Mais ceux qui me connaissent savent c'est quoi le mercenaire. C'est une bande dessinée. Fait que tu as 6 épisodes ou 6 bandes dessinées recueillies dans ce tome-là. Et là, tu vas me dire, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ben c'est la suite. C'est le mercenaire est fidèle à lui-même. Mais là, qu'est-ce qui est spécial? 2 choses. Je ne sais pas si vous en souvenez, chaque image, chaque case, il y a à peu près 6 cases par page, par planche de dessin, et c'était fait à la peinture, à l'huile, chacune d'elles.
Wow!
Et là, le monsieur, dans ces années-là, a découvert l'ordinateur et a pu faire sa bande dessinée à l'ordinateur. Je te la passe entre les mains.
OK.
Dis-moi si tu vois une différence, si ta mémoire est bonne.
Mais là, écoute, non, mais je vois pas de différence parce que j'ai pas de mémoire visuelle pour un livre que tu m'as montré il y a plusieurs mois.
Ouais.
Mais je me souviens que Vicente Segreles, donc cet auteur de bande dessinée là, illustrateur,
ouais.
Fait des dessins hyper réalistes.
Hyper.
Mais dans le hyper hyper réaliste là, c'est vraiment remarquable. Très,
c'est comme les peintures de couleur. La Renaissance, comme du Rembrandt.
Oui, c'est ça. Parce que là, le contexte, l'histoire se passe dans une époque de dragons et de chevaliers,
ouais.
Et de princesses et de châteaux, mais avec des créatures un peu plus fantastiques.
Ouais.
Mais c'est ça, c'est hyper réaliste, là, vraiment, les visages, les expressions, les émotions. Puis, effectivement, quand je me mets à feuilleter, là, pendant qu'on se parle, je regarde ça, puis je peux comprendre quand tu dis que c'est fait à l'ordinateur et que ce n'est plus. Faites à la main. Ben, je veux dire,
on le voit pas tant que ça. La différence n'est pas énorme. Il y a quand même sa signature est là. On reconnaît l'auteur, on reconnaît son dessin. Qu'est-ce qui est particulier? Bon, l'histoire a continué là, dans le même schéma que tu as nommé. Il y a un petit peu moins de princesses à secourir. Les princesses sont devenues, je ne sais pas si c'est un changement d'époque, si le féminisme était arrivé, mais ils sont des chevalières, ils sont des combattantes, elles aussi. Ils sauvent le temple des moines ou des espèces de druides, de mages qui se regroupent toutes dans une espèce de dôme. Mais là t'approches et là je vois là, ton interrogation arriver. C'est que là, à un moment donné, à peu près au l'avant-dernier épisode, l'auteur a manqué un peu de temps. Fait qu'il a écrit le texte de l'histoire, il a écrit au complet le scénario, le synopsis. Il a même écrit les dialogues qui allaient être dits. Et sur une page, admettons la page de gauche, t'as l'image, t'as une image qui représente l'action, mais il n'y a pas de phylactère, il n'y a pas de bulle. C'est vraiment comme une grosse toile, là. C'est une œuvre d'art qui est décrite par la page de gauche.
Okay.
Et là, le dernier épisode de l'album qui close la série au complet, il retourne à la bande dessinée. Et là, on est un peu là, dans le... on tombe un peu dans l'espace. Il avait introduit des personnages, là, pas juste fantaisistes, mais presque extraterrestres. Et on retourne sur la planète Terre, parce que ça se passait pas sur la Terre. Fait qu'il y a un petit côté planète des singes, d'anticipation, de... Ah, c'était-tu la Terre? C'était-tu dans un lieu fantaisiste? C'était-tu sur une autre planète? Il y a un retour sur notre chère mère, la Tierra Madre, la Pachamama. On retourne sur la Terre et la conclusion de cette saga inouïe de cet auteur incroyable, le mercenaire. Vicente Segreles, je vous la recommande sur Glénat. Et comme j'ai toujours dit, quand que les gens prennent la peine de faire un album, on va dire une œuvre complète comme ça, c'est parce que c'est du solide.
C'est vraiment remarquable comme travail, comme art visuel, là, parce que c'est ça, c'est dans le très bien exécuté. Puis il y a certaines cases là, qui semblent être des photos, tellement c'est réaliste. Mais c'est aussi tout l'univers, c'est vraiment un univers en soi qui est très unique. Donc, je ne l'ai même pas lu, je l'ai juste feuilleté, mais à chaque fois que tu me l'as montré, c'est quand même c'est hypnotisant tellement c'est beau. Là,
exactement, c'est captivant. Est-ce qu'on y va en musique? On va rester dans la thématique avec un groupe montréalais, des priestesses, des prêtres.
vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. On vient d'écouter une pièce du groupe montréalais Priestess. Et c'était la pièce Run Home, tirée de leur premier album.
Oui, monsieur.
Éponyme, Priestess.
Ah non, c'était... Non, Hello Master.
Hello Master. Master.
Yes, Master.
L'album. Et ça, ça date de, des années 2004?
2005 ou 2006. Et c'est produit par Gus Van Gogh.
Gus Van Gogh, connu pour Me, Mom, and Morgan Tyler.
Qui est un réalisateur à New York. Et là, tu me disais, tu es allé à New York et sur qui t'es tombé?
Ben oui, Priestess, que j'avais, qu'on avait vu, toi et moi, à Montréal, en show plusieurs fois à l'époque.
Ouais.
On était des fans finis. Mais une fin de, à l'époque, je ne sais plus c'était quelle année, là, dans les années 2005-2006 peut-être, à ma copine de l'époque et moi, on avait organisé un petit voyage spontané à New York. Puis sans trop d'attente, sans organiser grand-chose, là, on était juste allé comme ça. Puis arrivé là-bas, ben, on prend le journal papier dans un café. C'était l'équivalent du Voir. C'était le Village Voice.
Ben oui, à New
York. Puis on feuillette le journal pour voir qu'est-ce qu'on peut faire durant le week-end. On ne savait pas trop ce qu'on allait faire. On tombe sur une annonce d'un festival. Si je ne me trompe pas, c'était un festival de Village Voice, ouais, qui est un mini-festival d'une journée ou peut-être deux, là, durant la fin de semaine. Puis c'était un festival qui se passait à Coney Island, qui est le parc d'attractions vintage, là,
détruit un peu.
Mais qui a été comme...
Qui
avait été revampé à l'époque. Donc, il avait tout refait, là, les affiches, tout ça. Il avait fait venir des artistes là, pour refaire le visuel. Puis, on arrive là. Une belle scène de petit festival extérieur. Super belle journée d'été. Puis, dans les premiers groupes de la journée, c'était Priestess.
Oui, monsieur.
Qui était là, live. J'étais super content. J'étais comme, ah, ben, c'est drôle, là. C'est... On les avait déjà vus en show à Montréal. Mais...
T'as-tu crié « Montreal represent »
Oui, effectivement, je m'en souviens très bien parce que dès la première chanson, ils s'étaient présentés. « Hi, we're Priestess from Montreal » Puis t'as eu quelques personnes, dont moi, qui ont crié
«
Wouhou, représente !» Ouais, un excellent groupe qui ont fait un autre album par la suite. J'ai oublié c'est quoi le nom, c'est pas grave.
Moi avec.
Mais sauf erreur, ils ont juste deux albums.
Oui, exact.
Puis après, ils ont arrêté.
Ouais. Puis c'est un très, très bon groupe. Mais belle anecdote. Mais ça, c'est-tu gratos, ce show-là?
Oui.
Ou fallait-tu payer?
Ah, okay, non, c'était... Mais ça, c'était gratuit, oui.
Okay,
cool. Oui, c'était extérieur. Puis c'était comme dans le parc d'attractions, où à peu près, il y a comme un espace de vers un quai. Là.
Hey, ça devait être magique. J'adore qu'on y aille.
Oui, c'était super relax comme ambiance. Ouais. Là. Les gens étaient... C'était l'après-midi, il faisait beau soleil, puis il y avait plein de monde pour écouter de la bonne musique.
Comme ici à Montréal.
Ouais, vraiment. Ah ouais. Ouais, c'était vraiment tranquille. Ouais.
Chill. Hey, en parlant de chill, ben merci pour cette anecdote-là, Nelson. Nelson se livre à vous, mesdames et messieurs. Ça n'arrive pas souvent. Profitez-en.
Aujourd'hui seulement.
Faites plus de demandes. Ouais, c'est ça, c'est juste aujourd'hui. Après l'émission, il est fermé. Lowrider, du label 6/9 ou 6/19 label. Fait par Ron. Vous savez, c'est lui qui avait fait les Doggy Bags. J'en ai parlé en long et en large.
Là, on parle de quoi? Là? On parle
de bande dessinée.
De bande dessinée.
Nelson,
merci.
Merci à toi. Pour moi, c'est évident. C'est la BD. J'attends entre mes mains. Là. Ben, il y a tout le temps trois récits d'horreur. Et là, bon, il y en a deux corrects. Le dernier sur la coche. Et vous allez voir pourquoi.
Les gens ne voient pas, Marc-André.
Ben, non, mais je vais vous le décrire. Ça s'appelle Vanish. C'est en anglais, mais tu sais... Ron, c'est un Français, puis il traite beaucoup sur la culture américaine. Fait que Lowrider vous présente votre troisième histoire, Vanish, faite par Ron et Chestnut. Puis là, il y a un trigger warning. Tu sais quoi un trigger warning? C'est sa gâchette. Fais attention, la balle peut partir. Ça dit, l'histoire que vous apprêtez à lire est vraie. Les protagonistes dont les noms ont été modifiés pour cet ouvrage ont réellement vécu les histoires dérangeantes et les phénomènes étranges que vous allez découvrir. Un lecteur averti en vaut deux. Moi, je suis un lecteur, toi, t'es le deuxième. Okay. Toi, t'es le premier, moi, je suis le deuxième.
Ouais.
Peu importe. Là, cette histoire-là se passe NBC, British Columbia, Beautiful British Columbia, Canada, See You Soon. C'est l'histoire d'une jeune femme autochtone qui, dans l'Ouest canadien, part de son village qui est une réserve. Elle fait partie de la réserve de Stony Creek. Et elle se rend à un autre village, voir de la famille. Mais le transport dans ce coin-là, il y a beaucoup de neige, tout ça. Il y a une espèce d'autoroute et elle fait du pouce.
Okay.
La chose la plus dangereuse à faire, parce que déjà à l'époque, il y avait beaucoup de disparitions de jeunes femmes et même de jeunes hommes autochtones sur la 16 West qui s'en va à Yellowhead. Fait que c'est ça. Et par hasard, elle s'en va à Prince George, qui est à 21 km, pour être très précis. Hein, tu vois, moi puis Google Maps, on est comme ça. Là, je serre deux doigts là, pour dire qu'on est unis. Et elle se fait embarquer par un policier de la région. Et en roulant, ben, ils parlent, ils ont une discussion et on voit des affiches sur les ponts et placardés à gauche et à droite, « Missing telle personne », des photos de disparus, de disparitions. Fait que c'est la prémisse qui a été réelle pendant une très longue époque, malheureusement, dans plusieurs, pas juste dans l'Ouest canadien, là, dans plusieurs endroits. Et c'est cette histoire-là qui est basée, on va dire, sur des faits vécus, mais qui des faits réels ou plausibles, mais qui dérapent.
Ouais.
Super intéressant, super bien dessiné. C'est en couleur, c'est sur à peu près une vingtaine de pages. Et la force de ces récits-là, qu'on dit, voyons, ça se peut pas, c'est de la violence gratuite et tout ça, ben on a un petit document après que l'histoire finit, ça s'appelle Approfondissons, tu vois, je ne suis pas capable de parler.
Approfondissons
nos connaissances, merci, très bien dit. Le syndrome de la femme blanche disparue. Autochtone et syndrome de la femme disparue. Et là, tu as tout ça, la route des larmes, l'affaire Corinne Thomas, les lois comme révélateur, la fameuse route où est-ce que les disparitions. Juste pour ce récit-là, le Low Reader numéro 2 vaut la peine d'être lu. Il y a une autre histoire qui s'appelle Dark Reflection et Slum Kids. Slum Kids aussi, il est pas mal. Ça se passe dans les bidonvilles, je crois, de l'Inde. C'est pas précisé où, mais c'est où est-ce que les gens, où est-ce que les camions ordures versent leurs déchets et les gens construisent des villages autour et vont rapailler, trouver des trésors
dans les déchets.
Dans les déchets. Littéralement. Et qu'il y a ça au Brésil, qu'il y a ça en Inde. Fait que c'est Slum Kids qui est bon. Fait que c'est ça. C'est très bonne bande dessinée. Toujours le fun à lire. On pense tout le temps que c'est exagéré, très violent, mais il y a une recherche incroyable sur les sujets. Il part d'affaires que tu peux vérifier. Et là, il s'est attaqué à une bande dessinée que je suis en train de lire au moment même. Je vais sûrement vous en parler. C'est un one-shot, c'est-à-dire c'est une bande dessinée, une histoire complète. C'est sur le Dahlia noir, The Black Dahlia.
Murder. Ah, OK.
Ouais.
Donc là, Low Reader... Ça, c'est deux auteurs ou c'est plusieurs auteurs?
C'est deux auteurs. Ben, c'est
chaque histoire...
Ça, c'est des auteurs différents, okay. Exactement. Ouais.
Donc, Ron et Chestnut ont fait l'histoire Vanished, mais il y a deux autres histoires dans la même tome de Low Reader numéro 2.
Ouais.
Belle bande dessinée inspirée des comic books américains.
Exactement.
C'est déjà la fin de l'émission, Marc-André?
Pas déjà, j'avais des centaines de choses à raconter, mais merci de me...
On se reprend bientôt.
Ben oui, merci de me remettre sur le droit chemin. Et bonne route, bonne journée, bonne semaine à vous tous.
À la prochaine, bye bye.
À la prochaine. Hasta luego.
MTL 2424 presents Nonstop, a 36-hour continuous dance marathon celebrating nightlife culture, a first in Canada. It starts on Friday night, May 19th at 10 p.m. and ends on Sunday, May 21st at 8 a.m. at the Grand Quay of the Port of Montreal. On the program, 15 of the most exciting DJs from here and abroad, such as VTSS, Jacques Green, DJ Minx, TSVI, Kiernan Laveau, and more. In addition, there will be a free outdoor stage on Saturday, May 20th. Hurry, places are limited. Tickets available at mtl2424.ca. MTL 2424. Another night is possible.
Dans l'industrie de l'audio, de la vidéo, de l'éclairage et de la sonorisation professionnelle, l'équipe de Sonomusique est incontestablement la meilleure. Ayant constamment innové depuis 20 ans dans le domaine de la sonorisation des grands événements et grâce à son système Dernier Cri, constitué dans cette acoustique à la fine pointe de la technologie, Sonomusique vous offre une sonorisation puissante de grande envergure sur une longue portée. Pour la meilleure qualité de sonorisation possible à petite, moyenne et grande échelle, choisissez Sonomusique, le leader qui pense, innove et bâtit l'avenir de la sonorisation avec les nouvelles technologies. 3950 Jean Talon Est, coin 22e, proche de Pineuf. Téléphone 514-723-6101.
One Stop Caribbean Cuisine is the place to be. The best tasting food, West Indian food. Check it out, 334 St. Jacques Street, the one and only Chef X.